partie de cette édition du journal Parler, mesdames et messieurs. Le dossier de ce matin réalisé par Martial Kizabia Mungu qui s'est rendu dans le nouveau site des déplacés des Djougou qui ont fui l'insécurité dans leurs milieux respectifs. Suivi.
Il est 11h, nous arrivons à ces nouveaux sites de déplacés de Djougou, estimés pour le moment à environ 4500. Ils sont composés majoritairement de femmes et d'enfants. Notre guide est un agent distributeur de kits de la Ligue Anti-Sida, LACI, une organisation non gouvernementale qui encadre ces déplacés. Cet endroit est composé de 6 tentes, dont 3 dotées par la MONUSCO et 3 autres par Médecins Sans Frontières, MSF. En face de nous, 2 blocs de latrines d'urgence avec chacun 10 toilettes. Un autre espace est aménagé pour les bains avec 10 portes. Malgré ces décors, les besoins restent énormes pour ces milliers de déplacés. Assimoué Nyonchablaise, leur encadreur, explique.
Avec l'effectif que nous avons, ces latrines ne suffisent pas. Dans ce cas-là, Solidarité ne nous avait pas laissé et aussi ils ont promis de construire entre latrines qui sont en train de construire des gens.
Les riz, les haricots et les foufous sont les principaux aliments dans ce site. Chaque déplacé doit faire la queue une fois par jour pour être servi d'une petite quantité de nourriture vu que le nombre de bénéficiaires est disproportionnel à la nourriture disponible. Les femmes qui gèrent la cuisine lancent un SOS.
Aujourd'hui, nous préparons le riz, le haricot et le foufou. On leur donne sur des plats. Cette nourriture, ce sont des volontaires qui donnent. Nous avons besoin de l'aide.
Cependant, ces déplacés craignent pour leur sécurité dans ces nouveaux sites d'environ 10 hectares, mais non clôturés. Les drames qu'ils ont vécu dans leurs villages respectifs restent encore frais dans leur mémoire. Un de leurs représentants explique.
On n'a pas la sécurité parce que vous voyez, les gens sont dans l'obscurité et puis il n'y a même pas de policiers. De l'ordre, il n'y a pas ici parmi nous. Alors il n'y a pas de clôture là, tout ça. Alors ça constitue ce qu'on appelle la sécurité.
Pour remédier aux difficultés d'accès aux installations hygiéniques dans ces sites, l'Organisation internationale Solidarité est en plein travaux pour ériger des blocs, des latrines avec 20 portes et 10 douches. Beaucoup de ces déplacés expriment leur souci de retourner dans leurs villages respectifs, mais à une seule condition, que la sécurité soit rétablie dans leurs milieux. En attendant, chaque jour, leur nombre augmente, ce qui inquiète tant d'observateurs qui craignent que cet afflux de déplacés de Djougou occasionne la criminalité dans les parages et l'apparition de maladies hydriques compte tenu des conditions hygiéniques dans ces sites.
Bounia, Martial Kiza Biamongo, Radio Okapi.
Revue de presse.
La revue de presse, c'est avec vous, Folquin Consomoussir Africa. Bonjour.
Bonjour Jacques-Yves Moliman et bonjour à vous, très chers auditeurs. Changement au sein du gouvernement, voilà ce qui fait la une de la plupart des journaux qui nous a paru ce matin. Commençons donc avec le quotidien L'Avenir qui titre sa une, je cite, ministère de l'Intérieur et Sécurité, Henri Mova remplace Emmanuel Ramazani. C'est le notre confrère. C'était hier dans la soirée que le président de la République, Joseph Kabila, a nommé le professeur Henri Mova Sakani, vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Et c'est en remplacement, bien entendu, d'Emmanuel Ramazani Chadari en fonction depuis mai 2017. Rappelons avec notre confrère que Mova Sakani occupait jusqu'avant sa nomination la fonction de secrétaire général du PPRD. Remaniement, Chadari s'en va, Mova prend l'intérieur. C'est ce qu'on peut lire à la une des dépêches.cd. Et ici, le confrère fait remarquer que l'opinion se pose des questions sur les vraies motivations de ces changements qui, du reste, n'a concerné qu'un seul poste ministériel. Pas de panique donc, car à lire Kinshasa Times ce précédé, Emmanuel Ramazani Chadari est annoncé au poste de secrétaire permanent du PPRD dans sa nouvelle configuration. Cette sucette précédé précise que l'ordonnance présidentielle a été lue sur les antennes nationales RTNC mardi soir. Tâche pas facile à en croire ces médias en ligne qui citent la marche du 25 février, les dédoublements des partis politiques et l'insécurité. Pour le confrère, les nouveaux vice-premiers ministres à l'intérieur déjà le prouvent, sujet à lire notamment à la une d'actualité précédée. Contrairement aux folles rumeurs sur leur libération, Diomi et Muyambo restent en prison. Titre quotidien, le quotidien L'Avenir, à sa une, en croire une rumeur largement répandue sur les réseaux sociaux et prenant à témoin Maître William Kalombo, avocat de Jean-Claude Muyambo, écrit notre confrère son client ainsi que Gene Diomi Ndongala, respectivement président de la solidarité congolaise pour la démocratie et le développement et président de la démocratie chrétienne, devraient être libérés hier mardi 20 février 2018. Nombreuses sont les rédactions qui ont mordu l'hameçon et laissé leur plume en voulant accréditer cette rumeur qui n'avait aucun fondement juridique. À la place, Actualité précédée rapporte que 15 personnes ont été libérées de la prison centrale de Makala ce même mardi 20 février 2018. Les confrères ignorent les raisons de leur libération. Les journalistes potentiels émettant ainsi un doute pour les rendez-vous du 23 décembre, car écrit-il, Moïse Katumbi en exil forcé et Gene Diomi Ndongala et Jean-Claude Muyambo toujours en prison, la décrispation bat de l'aile.
L'invité.
Les casques bleus de la MONUSCO sont à Blukwa, chef-lieu du Baï du Baïma Nord, depuis lundi dernier. Cette localité est considérée comme l'épicentre de l'actuel conflit qui cause mort, pillage et incendie dans des maisons dans les territoires de Djougou. Le porte-parole militaire de la MONUSCO indique qu'ils ont la mission de stabiliser la zone avec le concours du gouvernement congolais. Le major Adil Esserir explique ce que font les casques bleus sur terrain dans cet entretien téléphonique avec José de Chartemenga.
Monsieur le porte-parole militaire de la MONUSCO, bonjour.
Bonjour.
Quelle est la situation des interventions des casques bleus de la MONUSCO dans les territoires de Djougou et Ituri?
Donc, comme vous savez, on a déjà déployé des patrouilles robustes et de reconnaissance d'hélicoptères. Après cela, on a décidé de déployer une base temporaire au niveau de la localité de Djougou, qui a permis d'apaiser la situation et d'assurer une protection de la population civile et des déplacés aussi. Et maintenant, hier, on a déployé une autre base au niveau de Blukwa, avec plus ou moins une cinquantaine d'hommes de troupes qui sont responsables d'assurer la protection de la population locale dans la région de Blukwa et les régions avoisinantes. Donc, jusqu'à maintenant, on peut dire qu'il y a un début de normalisation de la situation sécuritaire là-dessus.
Quand vous dites qu'il y a une cinquantaine d'hommes déployés à Blukwa, est-ce que c'est un nombre suffisant pour pouvoir protéger les civils dans cette zone qui est aussi vaste?
Donc, notre présence là, c'est une présence dissuasive. C'est une présence, on peut dire que 50 hommes, mais il faut regarder le travail qu'ils font. Donc c'est notre nouveau système de projection. La première fois, on a déployé à Djougou, on a lancé des patrouilles dans les environs. La situation a été stabilisée. Après, on a déployé au niveau de Blukwa. Donc notre souhait, nous, c'était qu'il n'y avait aucun casque bleu. C'est notre souhait. Mais si on est là, c'est pour rassurer, c'est pour apaiser la situation. Notre souhait, c'est que la situation sécuritaire doit être faite par les acteurs sécuritaires locaux. Mais on est là, et on est un seul acteur parmi tant d'autres, on est là pour fournir notre assistance et notre appui. Vous savez que, conformément à la résolution 2348, la sécurité, normalement, doit être faite par les acteurs sécuritaires locaux. Donc, avec ce déploiement plus ou moins limité, mais il faut voir que les conséquences sont bénéfiques, je pense.
Oui, mais concrètement, sur le terrain, qu'est-ce que les casques bleus vont faire, hormis leur patrouille? Est-ce que les casques bleus peuvent accueillir aussi dans leur site des déplacés qui se sentent en danger?
En fait, j'étais même, bien sûr, j'ai parti même moi-même à Djougou la semaine dernière, j'étais là. La plupart des déplacés, ils séjournent aux environs de la SID. Donc, ils se sentent plus en sécurité lorsqu'ils sont là. Donc, on vise la création d'un environnement protecteur, un environnement qui garantisse la protection des civils et surtout pour favoriser le retour des déplacés. Donc, notre déploiement là, il se limite pas à la création d'une base, mais surtout lancer des patrouilles et montrer la présence de la MONUSCO pour rassurer la population locale et dissuader les actions négatives. Donc, parallèlement à cet effort militaire, on soutient les mesures de rapprochement communautaire, des campagnes de sensibilisation pour parler aux jeunes et leur demander de cesser ces actions négatives. Même demain, il y a une commission conjointe qui va visiter et passer 4 jours dans toutes ces régions-là de Djougou pour faire situation assessment dans ces régions-là et voir comment favoriser l'effort humanitaire et les actions de rapprochement communautaire.
Oui, cette base mobile qui est arrivée à Blukwa hier, vous l'avez dit, combien de temps est-ce qu'elle va rester dans la zone quand on sait qu'il y a des bases de la MONUSCO qui ferment en Ituri, telles que Mambasa, Bogoro et autres?
Dans le Djougou, ils sont là, normalement, ce sont des bases temporaires. Par exemple, là, la base de Djougou, il a resté plus ou moins une dizaine de jours. De Blukwa, c'est le temps nécessaire à la stabilisation de la situation. Donc, c'est un déploiement temporaire. S'agissant des fermetures des autres bases, c'est pas seulement l'Ituri. On a déjà fermé 5 bases ici au Nord Kivu. Si vous vous rappelez là, en mois de août, je pense, au septembre, on a fermé 5 bases. base, Niabiondo, Walikali, Masisi, Banyampouli, Eliofo. Et même auparavant, on a lancé d'autres bases au Sud-Kivu. Donc c'est suite aux recommandations de la revue stratégique qui préconise une protection par la projection au lieu de la protection par la présence.
Est-ce que pour les cas spécifiques de l'Ituri, monsieur le porte-parole, est-ce que la MONUSCO travaille en collaboration avec les FARDC ou la police nationale congolaise? Est-ce que vous leur apportez assistance aussi sur le terrain?
Bien sûr. Normalement, là, il y a des opérations conjointes qui se fait surtout contre les FRPI au niveau d'Aveba et de Guité et les autres villages voisins. Donc, bien sûr, vous savez qu'on vient de prolonger l'arrangement technique qui est la force de la MONUSCO avec le ministre de Défense congolais. Donc, cet arrangement technique prévoit, et nous sommes d'ailleurs mandatés à le faire par la résolution 2348, à organiser des opérations conjointes, à fournir notre assistance, soit au niveau de ses ports-commandes, soit renseignements, soit logistique, et même dans les cas extrêmes, au ports-commandes même. Donc, cette coopération, il y a une condition sine qua non à le faire, c'est qu'elle doit être en stricte application de la politique de diligence voulue en matière de droits de l'homme. Donc, il ne doit pas que ces unités soient responsables ou accusées de faire de violations de droits de l'homme.
Bon, Major, je vous remercie.
Je vous remercie.
Okapi Sport. Le sport avec Nokmatondo, bonjour.
Bonjour Jacques-Yves Moulima, bonjour à tous les amis sportifs. Coupe Interclub de la CAF, la Svec Club sera reçue tout à l'heure sous le coup de 15h30 GMT par la formation de Biforward Wanderers du Malawi. Cette manche retour des préliminaires de la Ligue des Champions de la CAF se joue au Bingo National Stadium de Lilongwe. Nous sommes au Malawi. Les Congolais ont fait hier la traditionnelle reconnaissance de l'heure de jeu, c'était à l'heure du match. La Svec Club de Kinshasa qui est parti avec une avance de 4 buts assurée presque de se qualifie à moins d'une grosse surprise. Et puis à Kindu, dans le cadre des préliminaires retours de la Coupe de la Confédération, Manima Union reçoit Manga Sport du Gabon. Le club de Kindu joue à domicile avec une avance d'un but obtenu lors de la manche aller à Franceville. On écoute l'entraîneur de la Manima Union lors de la conférence de presse d'avant-match. Le coach Birindoa, qui ne veut pas minimiser son adversaire, reconnaît qu'il n'y a pas de match facile. Il a fini par demander le soutien de tous.
Dans le football, il n'y a pas une grande et une petite formation, toutes les équipes se valent. L'essentiel est de travailler sur le mental des joueurs. Sur le plan physique, je crois que nous sommes prêts. Sur le plan tactique, technique, on est encore là. On doit travailler surtout sur le mental des joueurs pour qu'ils soient costauds et comprendre qu'il n'y a pas de grands matchs et de petits matchs, que tous les matchs ont les mêmes valeurs qu'il faut défendre. À cette phase de compétition, nous devons mettre tout ce qui est de côté, les on dit, se fier sur les objectifs. Je crois que pour le moment, nous devons rester costauds, défendre premièrement les valeurs de la République démocratique du Congo, parce que c'est le flambeau de la République démocratique du Congo qui est en jeu. Nous devons mettre à côté tout ce qui est les ondits et défendre d'abord les valeurs de la République tout entière et de la province du Maniema en particulier. Vous savez, c'est le tout premier match international qui va se jouer sur notre stade. Et nous savons les enjeux, c'est de défendre les couleurs, de défendre les autorités qui ont mis cette infrastructure en jeu. Nous devons défendre la valeur de ces autorités.
Jacques Mouvoumou-Lima, dans notre prochaine intervention, nous allons parler de cette rencontre entre le ministre des Sports et les présidents ainsi que les secrétaires généraux des fédérations sportives nationales.
Merci Enoch Matondo. Mesdames et messieurs, il est 6h30, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.